Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Dans l'épisode précédent, Bernard Salanès de l'Institut ELAB nous présentait les derniers chiffres de son étude pour BFM TV qui montre que Marine Le Pen peut gagner cette élection présidentielle. Elle est désormais à 47,5% d'intention de vote au second tour, donc avec les marges d'erreur et les quelques jours qui restent, il est tout à fait possible que Marine Le Pen gagne cette élection présidentielle. Ça n'est pas la probabilité la plus forte, mais c'est une possibilité qui devient de plus en plus concrète dans les chiffres, on le voit. Cette étude, ELAB, a été comme une sorte d'électrochoc dans l'équipe Macron, et on l'a vu ce jeudi avec un candidat président en Charente-Maritime qui a changé de ton et qui a utilisé des arguments plus offensifs contre Marine Le Pen, comme si finalement il rentrait dans le match, où il montait sur le ring dans cette campagne où pour différentes raisons il avait semblé parfois rester un peu en retrait. En tout cas, on va vous raconter tout ça avec Agathe Lambray et Elisa Bertholomé qui suivaient pour BFM TV ce déplacement en Charente-Maritime. L'électrochoc Le Pen réveille le candidat Macron. Nous sommes le vendredi 1er avril et nous sommes donc à 23 jours du choix des Français. Salut à tous les deux.
Salut Philippe.
Salut Philippe.
Donc vous êtes à Fouras ou Foura dans les Charentes-Maritimes. On dit Fouras, c'est ça, hein? Comme le père Fouras.
Non, on dit Foura. Les habitants nous ont dit. Et là, on est revenu à La Rochelle parce qu'on prend le train dans 20 minutes, 25 minutes pour rentrer à Paris.
Est-ce que vous avez senti, c'est une sorte de réveil comme ça de la campagne Macron?
C'est sûr que depuis lundi, déjà, on a senti un réveil. Mais aujourd'hui, particulièrement, Emmanuel Macron ne retient plus ses coups. Il veut montrer aussi qu'il fait campagne sur le terrain, qu'il refuse pas le débat. Et c'est vrai qu'on l'a interrogé sur l'écart qui se resserre entre Marine Le Pen et lui, et il nous a direct répondu pour réinstaller un clivage en fait entre lui et Marine Le Pen, pour essayer de recreuser l'écart avec elle, parce qu'il voit bien que ça se dessine pas comme en 2017 où il avait réussi quand même à l'emporter assez largement face à elle. Et Emmanuel Macron donc a cogné Marine Le Pen. Il l'a renvoyé dos à dos avec Éric Zemmour en expliquant que c'était un tandem d'extrême droite entre un clan, Marine Le Pen et Éric Zemmour qui venait d'arriver. Et voilà, non, il est clairement descendu dans l'arène, et ça a deux objectifs. À la fois recréer ce clivage avec Marine Le Pen pour essayer de la distancer à nouveau, et en même temps vraiment montrer à son camp et montrer aux Français et aux oppositions qu'il est descendu de son piédestal, qu'il est dans l'arène et que c'est un candidat comme les autres, qui ne refuse pas le débat et qui reste pas en surplomb et loin de la mêlée.
Et sur la forme, Elisa, est-ce que tu avais l'impression qu'il était aussi plus combatif, plus offensif qu'il ne l'a été ces dernières semaines ?
Oui, clairement. Il avait déjà commencé à amorcer ça lundi quand il était à Dijon et qu'il avait multiplié les bains de foule, les échanges, les réponses aux questions des journalistes. Il l'a refait de nouveau aujourd'hui puisqu'il a passé un long moment à discuter avec des gens, à ne pas éviter de répondre aux questions qui lui étaient posées, même celles qui pourraient lui être défavorables. Et c'est vrai que sur l'histoire de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour et des sondages des courbes dans les sondages en tout cas qui se rapprochent dangereusement, il a été plusieurs fois interrogé sur le sujet et il a répondu plusieurs fois, comme s'il voulait vraiment marteler ce message, rappeler la dangerosité de l'extrême droite. Il a beaucoup insisté là-dessus, notamment en fin de déplacement, et montrer que effectivement, comme ce qu'il disait hier à ses équipes lorsqu'il a passé une tête au QG, rien n'est fait, et c'est pas parce que depuis des semaines et des mois, les sondages le donnent en tête, voire gagnant au second tour, qu'il faut absolument le croire, et il faut continuer de faire campagne, encore plus maintenant, c'est maintenant que c'est important pour lui.
On va revenir sur ce qu'il a dit au QG à ses équipes, mais tu parlais d'extrême droite. Il a notamment insisté sur le fait qu'il faut utiliser, selon lui, le mot extrême droite par rapport à Marine Le Pen. Et j'ai eu l'impression, en lisant les échos de ce que vous nous envoyez, de ce qu'il disait, qu'il reprochait d'une certaine manière à la classe politique et aux médias de ne plus qualifier Marine Le Pen d'extrême droite, c'est ça ?
Oui, ça, il l'a plusieurs fois mentionné. Il nous a un peu renvoyé, nous aussi, médias, à notre responsabilité en insistant sur le fait que c'était aussi nous qui avions laissé de la place à ces idées, de ces idées prospérer dans le débat politique. Bon, c'est un petit peu facile de la part d'Emmanuel Macron. Ça lui permet de biaiser et de ne pas répondre complètement non plus à la question qui lui est posée. Mais c'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec quelques confrères tout à l'heure. Il a, à un moment, lorsqu'il est interrogé sur cette question-là, il a parlé du Front National et pas forcément du Rassemblement National.
Oui.
Ce qui est aussi dans l'imaginaire populaire renvoie aussi à une image très spécifique, à une période historique très spécifique du RN, du FN comme on l'appelait à l'époque, donc c'est pas complètement anodin non plus que Emmanuel Macron réutilise ce terme-là qui aujourd'hui n'existe plus pour qualifier Marine Le Pen et l'extrême droite.
Agathe, il a utilisé un argument tout à l'heure, vous le mentionnez à propos de Marine Le Pen en disant, et ça rappelle ce qu'il disait lundi à Dijon quand il parlait de tandem, il dit au fond, aujourd'hui le paysage à ce qu'il appelle l'extrême droite, c'est un clan, donc implicitement les Le Pen, et un nouveau venu qui donc à l'entendre est Éric Zemmour. C'est ça, c'est-à-dire que pour lui il essaye de montrer que Marine Le Pen c'est aussi un futur tandem ou le même camp qu'Éric Zemmour.
Oui, exactement. Et oui, pour qu'il appelle à ne pas banaliser Marine Le Pen. Il reproche aussi au monde, il a cité le monde politico-médiatique, de l'avoir trop banalisé, de dire qu'elle était gentille, qu'elle avait changé. Et en fait, là, il veut nous dire non, Éric Zemmour ne l'a pas recentré, c'est la même chose. Voilà, vous regardez Marine Le Pen telle qu'elle est, ce qui est une façon aussi, comme le disait Elisa, de ne pas aussi parler de la responsabilité politique. Quand il avait été élu, Emmanuel Macron, il avait dit qu'il ferait tout dans les 5 prochaines années pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour l'extrême droite. Et aujourd'hui, il est rattrapé par cette montée de l'extrême droite. Il y est confronté. Et donc, son argument, c'est de renvoyer Marine Le Pen et Éric Zemmour dos à dos. Et on a remarqué aussi une chose, c'est qu'en 2017, Emmanuel Macron insistait beaucoup sur le clivage progressiste-nationaliste qui, aujourd'hui, pourrait un peu passer pour arrogant. Enfin, il y a un peu le camp des bons, le camp du progrès, et puis le camp des méchants. Là, il n'a pas répété cet argument aujourd'hui, Emmanuel Macron. Et ce que l'on comprend, c'est que pour contrer Marine Le Pen, il y a eu une vraie réflexion ces derniers jours dans son entourage. L'idée, c'est de l'attaquer sur le fond, sur le fond, sur le fond, sur ses propositions et sur le fond. Et pour lui, ce qu'elle incarne sur le fond, eh bien, c'est l'extrême droite. Et ce n'est pas une droite qui est plus sobre ni plus mesurée que celle d'Éric Zemmour.
D'ailleurs, à propos de ce clivage progressiste-nationaliste, entre guillemets, qui avait été dessiné et activé beaucoup par le camp Macron autour des européennes en 2019 et qui était contesté par un certain nombre de gens, il a fait référence à Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Et d'une certaine manière, on a l'impression qu'il je dirais pas qu'il s'adresse à Jean-Luc Mélenchon ou à ses électeurs, mais qu'il prépare déjà un éventuel second tour où il aurait besoin d'un meilleur report des voix des électeurs mélenchonistes pour pouvoir battre Marine Le Pen.
Et même des électeurs de gauche tout court, il leur a envoyé un gros appel du pied quand il a pris la parole. Alors déjà, ce déplacement était consacré à l'écologie, thématique plutôt de centre-gauche, de gauche. Donc c'était aussi
celui de Dijon qui était aussi sur la formation et l'éducation.
L'éducation, et il avait passé un long moment dans des quartiers populaires. Donc là, on était sur l'écologie. Ouais. Il voulait montrer qu'il avait un bilan et qu'il avait un programme en matière d'écologie, qu'il n'était pas seulement le candidat appuyé sur sa jambe droite, qu'il rééquilibrait un petit peu sur sa jambe gauche. Donc ça, c'était déjà l'objet du déplacement. Et c'est vrai que pendant son discours au milieu d'une place avec une foule de personnes qui l'écoutaient, il a vraiment très explicitement fait référence à Jean-Luc Mélenchon et à sa volonté de mettre en place une planification écologique en insistant sur le fait qu'il trouvait que c'était une bonne idée. Donc non seulement il mentionne Jean-Luc Mélenchon, mais également il reprend une de ses idées. D'ailleurs, il le disait après lors d'un micro tendu lorsqu'on l'a interrogé, il disait je paye mes droits d'auteur puisque la formule n'est pas de moi, mais je considère quand même que c'est une bonne mesure, même si on n'est pas complètement d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur cette idée de planification. Mais donc, oui, le clin d'œil était très, très appuyé en direction des électeurs de gauche. Il a bien compris Emmanuel Macron, surtout quand on regarde les dernières courbes dans les sondages et quand on regarde le report des voix de gauche au second tour, qu'il a encore du chemin à faire pour convaincre ses électeurs de gauche, que ce soit ceux de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot ou d'Anne Hidalgo. Donc, il y a clairement une volonté dans cette dernière partie de campagne de montrer qu'il peut aussi faire des politiques, mettre en place des politiques en faveur de l'électorat de gauche qui se sent peut-être un peu laissé de côté depuis le début du quinquennat.
Il a aussi évoqué la polémique qui traîne autour de McKinsey. Et c'est pas la première fois qu'il a été interrogé dessus. Il est à nouveau revenu dessus en renvoyant notamment aux ministres qui se sont exprimés hier lors d'une conférence de presse à Bercy. C'est une sorte de sparadrap pour la campagne Macron, cette polémique qui s'installe et qu'il n'arrive pas à éteindre.
Bah, le problème, c'est que c'est une polémique qui renvoie Emmanuel Macron à tous ses... à toutes ces étiquettes, en fait, celles de président des riches ou des intérêts de l'argent. Voilà, ça appuie vraiment sur ce qui apparaît comme son point faible et son entourage en inconscience. Donc c'est pour ça que c'est très embêtant, en plus, à des jours du premier tour. Maintenant, dans l'entourage aussi du président, on dit que pour l'instant, ça prend pas vraiment à part dans les médias. On a quand même conscience que c'est un sujet qui est très délicat et qu'il faut absolument déminer, d'où cette conférence de presse presque en catastrophe hier pour tenter de désamorcer la situation. Et Emmanuel Macron, qui à chaque fois qu'il est interrogé, parce que maintenant c'est systématique, en fait, il a été interrogé plusieurs fois dessus, encore à Dijon longuement aujourd'hui, à chaque fois qu'il est interrogé, il tente de déminer, de s'expliquer, de justifier. Et tout à l'heure, son grand argument qu'il a vraiment martelé pour que ça imprime, eh bien, c'était que la France, par rapport aux autres pays étrangers, avait moins recours au cabinet de conseil. Il disait que ça se faisait presque 5 fois plus dans d'autres pays qu'en France. Donc c'est un peu l'angle de défense. C'est vrai qu'il y a eu une sorte de sidération au début dans cette affaire. L'exécutif n'a pas vraiment su se défendre. Et là, on sent que c'est la riposte et qu'il faut absolument désamorcer la crise.
Et j'ajouterais, rajouter à ce que disait Agathe, qu'ils ont beau dire, l'exécutif a beau dire que cette polémique n'existe que dans les médias, Macron a quand même été accueilli tout à l'heure à Foura par des cris de McKinsey démission. Donc c'est aussi quand même un sujet et une histoire qui a commencé à passer le mur du son et dont les gens se souviennent et se rappellent déjà.
Et il a on l'a dit, ce déplacement montre bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans la campagne et qu'il est dans une position un peu différente de celle où il était il y a quelques semaines. Il se pose davantage en challenger. Et est-ce que c'est l'effet du sondage, enfin des sondages, et notamment du sondage Elab qui a été publié il y a 24 heures, dont on parlait dans l'épisode d'hier? Il y a eu aussi cette réunion, donc hier soir, au QG, où le candidat Macron est venu, où il y avait un certain nombre de responsables de son comité de campagne, et où il a essayé de montrer que rien n'est joué, quoi. Et qu'effectivement, il va falloir se battre pour gagner cette réélection.
Oui, alors rien n'est joué, ça il le répète depuis le début, parce qu'on l'accusait de ne pas vouloir faire campagne, de vouloir enjamber l'élection, et on pouvait se demander si c'était sincère ou pas quand il était au Zénith dans les sondages. En revanche, là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter, être prudent en tout cas. Donc c'était un peu une opération remobilisation hier, d'accord, dans un contexte quand même difficile. Après le sondage Elab qui a beaucoup fait réagir la majorité, parce que l'écart au second tour n'a jamais été aussi serré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Emmanuel Macron s'est donc rendu à son QG un peu pour remobiliser les troupes et puis surtout pour leur dire c'est un fait de campagne, c'est pas dramatique, ça peut arriver à 10 jours du premier tour, mais maintenant faut avoir des arguments et faut contrer Marine Le Pen, quoi. Il faut pas se décourager. Et par ailleurs, je pense que pour Macron, ça met aussi un peu de challenge. On dit souvent qu'il est jamais aussi bon que quand il est challengé. Et c'est vrai, il a encore plus envie d'en découdre et encore plus envie de se battre dans un contexte pareil. D'ailleurs, on voit l'effet immédiat, hein. Il intensifie clairement sa campagne. Et la semaine prochaine, il fera certainement encore plus de déplacements que cette semaine.
Ouais. Mais il y a l'idée aussi, parce que moi j'en ai parlé avec des responsables d'autres partis, de gauche ou même d'ailleurs du Rassemblement National, qui trouvent que la ficelle est un peu grosse, qui trouvent que la Macronie surjoue un petit peu le « oh mon Dieu, on risque de perdre », pour essayer de remobiliser, de réactiver ce qu'on appelait autrefois, ce qu'on appelle le Front Républicain. Et voilà, et du coup il y a une sorte de doute, y compris chez les électeurs de gauche, est-ce que vraiment il y a un danger de victoire de Le Pen? Et ils sont pour l'instant dubitatifs, ou certains d'entre eux sont dubitatifs, et dans les partis, certains trouvent la ficelle un peu grosse. Est-ce que Elisa, est-ce qu'il y a, je dirais pas une panique, mais est-ce qu'il y a une inquiétude qui monte, ou est-ce que c'est aussi une stratégie politique d'activer cette peur-là d'une victoire de l'extrême droite?
Je dirais que c'est un peu les deux, puisque le plus grand risque pour cette élection présidentielle, c'est également l'abstention. Donc en dramatisant ces derniers jours de campagne, ce premier tour et les résultats qu'il pourrait y avoir au second tour, ça peut créer un réflexe de mobilisation chez des électeurs qui disaient « bon bah c'est fait, je vais avoir la même affiche qu'il y a 5 ans, donc je vais pas forcément aller voter le 10, voire le 24 avril prochain ». Donc ça, c'est le premier enjeu. Et puis je pense qu'effectivement, effectivement, au sein de la Macronie, en tout cas, ils sont un petit peu moins sereins qu'il y a quelques semaines, parce que c'était très confortable pour eux. Ils faisaient la course en tête depuis des semaines, si ce n'est des mois. Ils s'y voyaient déjà. Certains commençaient à faire des plans, à tirer des plans sur la comète, à faire le casting du prochain gouvernement, à penser réélection aux législatives. Là, le fait que la présidentielle soit quand même avant et qu'il faut tout de même passer cette échéance-là, c'est Édouard Philippe qui le rappelle régulièrement. Il faut, avant de penser aux législatives et à la réélection de chacun, il faut passer la aide, la présidentielle. Eh bien, ça devient un petit peu plus concret. Donc, effectivement, ça peut entraîner un certain sursaut et ça se verra, je pense, également samedi lors du meeting, du seul meeting qu'Emmanuel Macron va tenir avant le premier tour, puisque ça sera non seulement un meeting de mobilisation, mais aussi pour lui de lancement, de relancement vers ce premier tour pour tenter de mobiliser les troupes dans la dernière ligne droite.
Et par ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Elisa, il y a aussi un principe de réalité, Philippe, c'est que là, on est quasiment dans la marge d'erreur au second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Donc, en fait, une victoire de Marine Le Pen est vraiment possible, ou est-ce que c'est simplement une formule qu'ils utilisent en disant rien n'est joué pour réactiver leur troupe? Est-ce qu'il y a vraiment une forme de doute qui monte?
Oui, ce que je disais, c'est qu'en fait, il y a un principe de réalité. On est quasiment dans la marge d'erreur au second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc, en fait, c'est pas simplement pour faire peur. C'est ce que l'on constate dans les sondages. Et si près de l'élection, d'accord, en général, on peut quand même estimer qu'ils sont assez fiables. Par ailleurs, au-delà de ces sondages qui déjà mettent Marine Le Pen en position très menaçante pour Emmanuel Macron, potentiellement bientôt dans la marge d'erreur, il y a la question des reports des voix au second tour. Et ça, la réalité, c'est que les mélenchonistes, ils vont pas voter comme un seul homme pour Emmanuel Macron. On le voit d'ailleurs dans les sondages, hein, les mélenchonistes sont très divisés. Ils vont aussi voter pour Marine Le Pen ou pas voter du tout. Du côté de chez Valérie Pécresse, déjà, elle a plus grand chose, donc il y a plus énormément de réserve de voix aujourd'hui parce qu'elle est même pas à 10% dans les sondages. Et sur ceux qui restent, eh ben, on estime que c'est le noyau dur de la droite, donc plutôt tendance à voter Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron. En fait, la politique, c'est une question d'addition. Et si on est lucide et qu'on fait les comptes, il n'y a pas de quoi forcément paniquer, mais on peut raisonnablement se dire que oui, clairement, c'est pas gagné et qu'il va falloir se battre, quoi.
Donc pour résumer, Marine Le Pen a réussi ou est peut-être en train de réussir à désactiver ou à un peu désactiver le tout sauf Le Pen, et que la question des prochains jours, c'est est-ce que le tout sauf Macron, Emmanuel Macron va réussir un peu à la désactiver avant le second tour. En tout cas, ça va être intéressant à suivre.
Surtout que le tout sauf Macron existe et en tout cas était très fort à un moment du quinquennat. Et la question, absolument, c'est de savoir s'il renaît aujourd'hui.
Absolument. Merci à tous les deux. Je vous laisse.
Oui, on va filer prendre notre.
Je voudrais que vous ratiez votre train.
On y va, on confie.
Merci, bonne journée.
À bientôt, Phil.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Dans celui de demain, les confidences de Jean-Luc Mélenchon après ces derniers chiffres des sondages d'opinion, ce face-à-face qui se dessine pour le second tour, Macron-Le Pen. Que va-t-il faire? Appellera-t-il à voter pour Emmanuel Macron? Appellera-t-il à l'abstention? En tout cas, il sera peut-être le faiseur de roi, puisque selon l'étude de Bernard Sananès, l'étude Elab que nous mentionnions, près d'un électeur de Jean-Luc Mélenchon sur trois au premier tour se dit prêt à voter Marine Le Pen au second tour. Donc les confidences de Jean-Luc Mélenchon dans le prochain épisode du Service Politique avec Perrine Vasque. À demain.